One of the hardest parts of getting older is feeling like something's off in your body, but not knowing exactly what. It's not just aging. It's often your hormones, too. When they fall out of balance, everything feels off. But here's the good news. This doesn't have to be the story of your next chapter. Hormone Harmony by Happy Mammoth is an herbal formula made with science-backed ingredients designed to fine-tune your hormones by balancing estrogen, testosterone, progesterone, and even stress hormones like cortisol. It helps with common issues such as hot flashes, poor sleep, low energy, bloating, and more. With over 40,000 reviews and a bottle sold every 24 seconds, the results speak for themselves. A survey found 86% of women lost weight, 77% saw an improved mood, and 100% felt like themselves again. Start your next chapter feeling balanced and in control. For a limited time, get 15% off your entire first order at happymammoth.com with code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, Geico helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with Geico.
Allô, bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré! Oh, je t'ai loin de mon micro.
Oh,
pas l'air.
Oh, ici, Mel, loin de son micro.
Et Hélène, proche de son micro.
Ouais. Puis, bonne Saint-Patrick!
Oh oui, ça, c'est... Ouais, c'est vrai.
Ça sort la journée de la Sainte-Pat, yes!
Joyeux Saint-Patrick, oui. À tout le monde!
Allez boire une Guinness, habillez-vous en verre.
Ah, oh, je suis down. Sign me up! Ça va bien aller aujourd'hui, guys? On n'a pas de bébé?
Non, pas de bébé. Ben, le mien, il dort dans la chambre à côté, mais il y a un
ça
papa
bien
pour gérer.
Papa est là. On devrait être correct. Le mien est à la garderie.
Yes!
Avant que des gens me jugent, je sais qu'il y a 4 mois, mais c'est ça où il n'y a pas de podcast. Fait que bébé va à la garderie.
Ouais, mais juste des petites heures. Là.
Ouais, il va 2 heures.
Pas ses journées.
De 8h30 à 10h30. Grosse journée.
Grosse journée.
Mais écoute, ça me donne le temps de...
Ah, ça fait
d'écrire
du
le
bien,
podcast.
Là, revivre.
Oh mon Dieu.
Sans enfant.
Toutes les mères qui nous écoutent en ce moment, c'est comme, oh man, je te file. Qu'est-ce que tu nous racontes, Hélène,
ben
aujourd'hui?
Là, avant que je te raconte l'histoire d'aujourd'hui, je voulais juste faire un teaser.
OK.
Parce que le bonus qui va sortir sur Patreon le 23 mars, c'est vraiment un épisode très spécial. Parce qu'il y a une auditrice qui nous a écrit parce qu'elle voulait nous raconter son histoire.
Okay.
Et
ah oui, tu m'avais dit.
Son histoire de la fois où elle a failli mourir.
OK.
C'est quelque chose, là, je veux pas trop en dire pour pas brûler les punchs puis l'histoire et tout, mais ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Et merci mille fois à Clo qui a eu le courage de me raconter son histoire. C'est vraiment incroyable. Donc, si vous voulez entendre ça, allez vous abonner à Patreon pour entendre l'épisode bonus du 23 mars et tous les autres épisodes bonus. On est rendu à genre 30, là.
Déjà? Moi, je pense, ça veut.
On arrive, ouais.
30? Ça veut dire 30 mois?
Genre?
Wow.
OK. OK. Histoire inédite.
Ouais, histoire inédite.
Sur Patreon la semaine prochaine.
Voilà. Sur ce, je te raconte. Aujourd'hui, mais je l'ai intitulé Le lutteur.
OK.
C'est tout ce que je veux dire pour l'instant.
OK. À date, t'es vraiment bonne dans les titres. Enfin, je suis sûre que c'est vraiment bon.
Alors, chantante à Antonio, le chum à notre amie Yelena, qui m'a recommandé cette histoire-là
ah,
il y a
ouais?
vraiment longtemps. Là, genre, je pense qu'on a commencé Crime de Bine, il était là, oh, tu devrais faire ça. Puis, fait que, hein, quand vous me faites des suggestions, ne vous découragez pas, sont écrits. Sur ma liste quelque part.
Ça prend juste 2-3 ans.
C'est ça, c'est avant que j'y arrive.
Donc, merci, Antonio.
Alors, mes sources, The Dark Side of the Ring, saison 2, épisode 6, du Wikipédia, la BNQ numérique, puis c'est pas mal ça. Alors, je t'amène. Le 10 mars 1993, au 1603, place Michel-Gamelin, dans le quartier Vimont à Laval. C'est un quartier assez huppé, là, avec des grosses baraques de riches. Il est minuit 30 et Diane Rivet, 28 ans, revient d'un spectacle de ballet avec Claudia, sa petite fille de 6 ans. Diane ouvre la porte de la maison et découvre une scène d'horreur. Son mari, Adolfo Bresciano, se trouve sur le fauteuil devant la télévision, télécommande à la main, dans une mare de sang.
Hein?
Il est mort. Il a reçu 7 balles dans la tête et 4 dans le corps. 2 fusils se trouvent par terre. Claudia prend la Diane prend la petite Claudia dans ses bras et court chez son voisin pour appeler les secours.
J'espère qu'il n'a pas eu le temps de trop voir.
Oui, je sais pas.
La petite.
Sais pas. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme qui s'est fait tuer dans son fauteuil en écoutant le hockey, c'est pas n'importe qui. Il est 7 fois champion du monde en poids lourd. Mais surtout, il est un lutteur professionnel très connu sous le nom de Dino Bravo. Alors, je te raconte aujourd'hui l'histoire de Dino Bravo et de sa fin tragique. Dino Bravo, est-ce que ça dit quelque chose?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Okay. Parce qu'on se rappelle que je vis en dessous d'une roche.
Oui. Moi, ça me dit vaguement quelque chose. Puis en fait, c'est très drôle parce que je connais vraiment rien sur la lutte, mais genre l'été passé, à Québec, quand il pleuvait et on n'avait rien à faire avec la petite, on est allé au Musée de la civilisation, puis il y avait une exposition sur la lutte. Puis
c'est vrai?
C'est là que j'ai vu ce nom-là, en fait.
Ah! C'était meant to be.
Oui, meant to be.
OK.
Donc.
C'est en quelle année, t'as dit?
Ça, c'était en 93.
OK.
10 mars 93. Hein, c'est presque...
En 2014.
Oui, en 2014. Ça fit dans les dates.
Ouais.
Alors, je te parle de l'homme. Son nom de lutteur, c'est Dino Bravo. Ben, son vrai nom, c'est Adolfo Bresciano. Il est né le 6 août 1948 à Campobasso, en Italie. Il déménage à Montréal avec ses parents quand il est enfant.
C'est pour ça qu'Antonio le suggère.
Oui,
italien.
C'est un italo-montréalais. Il grandit dans le quartier Centre-Sud. Centre-Sud! C'est un vrai petit italo-montréalais. Il parle italien, français, puis il apprendra plus tard à baragouiner l'anglais.
OK.
Et là, je veux pas tomber dans les clichés que tous les Italiens sont dans la mafia.
Mais!
Son oncle est nul autre que Vic Cotroni.
Cotroni, non!
Alors,
Son oncle. Okay.
Alors, pour vous replacer, Vic Cotroni, c'est le chef de la famille Cotroni, qui est la famille mafia. À la tête de la mafia italienne de Montréal dans les années 60 et 70.
Mm-hmm. Mon épisode, dans 2 semaines, c'est par rapport à ça aussi.
Ah, pas vrai? Nice.
Ça a un lien.
Ah.
Les teasers aujourd'hui. Mmh. Ouf.
Donc, en fait, la famille Cotroni, c'est la première famille mafieuse du Québec et Vic Cotroni était le chef. Dans les années 80, le pouvoir passe à la famille Rizzuto et Vic meurt d'un cancer en 1984. Mais quand même, donc quand Dino grandit dans sa jeunesse, son oncle, c'est juste le parrain de Montréal, bref.
Mm-hmm.
Puis en fait, c'est pas son oncle de sang, c'était le mari de sa tante Maria Bresciano. Puis, fait trash.
Vas-y.
Vic Cotroni était accusé du viol de Maria, mais finalement, les accusations sont tombées quand il a accepté de la marier.
Quoi?
Ouais. Et ça, en fait, c'est malheureusement assez commun en Italie, parmi les Italiens à l'époque. Et ça avait même un nom. Ça s'appelait un mariage par réhabilitation. Pour réhabiliter la femme impure qui s'était faite violer. Ouais. C'était même dans la loi italienne, genre que les accusations tombaient comme quand le violeur mariait la femme.
J'ai jamais été aussi sans mots de toute ma vie.
Ouais. C'était mon fait trash.
C'est très trash.
Et fun fact.
Vas-y.
Mon fait amusant. Vic Cotroni était lui-même lutteur dans les années 30.
Hein?
Connu sous le nom de Vic Vincent.
Ah ouais, il me semble que j'avais vu ça.
C'est quand même drôle.
Si vous voulez... plus d'informations sur les Cotroni puis tout ça. J'ai fait un épisode là-dessus en 2022. C'est l'épisode 44, pour ceux qui veulent aller écouter les détails de cette famille.
J'aurais quasiment dû le réécouter avant de faire mon épisode parce que je connais tellement rien de la mafia puis j'avais tout oublié.
Je t'avais tout raconté?
Oui, mais j'ai tout oublié.
C'était en 2022.
C'est ça. Pour vrai, c'était un épisode quand même difficile à faire parce que je connais rien sur la lutte, puis je connais rien sur la mafia, puis c'est comme les deux sujets. Genre, fait, pour
mais
vrai,
là,
ça, comme...
j'ai fait un cours de mafia 101.
Ouais,
même.
J'aurais vraiment dû le réécouter, ça. Bref. Donc, Dino grandit dans un monde où la mafia fait partie de la vie courante. Et son amour pour la lutte commence très tôt, dès l'âge de 12 ans, en fait. Et ce qui l'a amené là-dedans, c'est que sa maison était située près de celle de Gino Brito, qui avait quelques années de plus que lui, puis qu'il était lutteur. Donc, il commence à s'entraîner très tôt avec Brito. Et ça devient comme un de ses meilleurs amis qui va rester proche toute sa vie. Et il prend le nom de Gino Bravo, qui est le nom de ring d'un lutteur connu des années 50 en Italie.
OK. Mm. Je t'ai encore pas revenu de ton fait trash.
Ouais.
Je vais m'en remettre.
À l'âge adulte, Dino mesure 1,83 mètres, donc 6 pieds, et pèse 248 livres. 122 kilos. Il peut bencher 500 livres. Je vais te montrer une photo. Là.
C'est gigantesque.
Il y a vraiment genre la shape d'un corps arrière de football. Là,
OK. OK. Il a l'air d'un lutteur.
Ouais.
Tu peux pas avoir plus l'air d'un lutteur que ça.
Ouais.
Wow. J'imagine que la photo va être en ligne à ce moment où on
J'imagine.
Se
J'imagine.
Je te pose la question, mais c'est moi qui l'ai
c'est
fait.
C'est toi
les
qui fais les
postes. Fait que je vais mettre la photo.
Alors, sa carrière de lutteur professionnel commence en 1970 quand il entre dans l'association Les As de la lutte avec Gino Brito. Un peu plus tard, il prend part à la lutte Grand Prix où il remporte à deux reprises le championnat par équipe avec Brito. Ça, ça l'amène à travailler aux États-Unis où il remporte le championnat du monde par équipe de la National Wrestling Alliance et le championnat par équipe de la World Wild Wrestling Federation, la WWF, qui est aujourd'hui la WWE. The World Wrestling Entertainment.
Ah, OK.
Ouais, qui est comme le truc de lutte que tout le monde connaît. Là. Et fait intéressant, aujourd'hui, tu sais, si tu penses à la lutte, tu penses automatiquement à WWF, WWE, parce qu'ils contrôlent toute la lutte professionnelle.
Mm-hmm.
Mais à l'époque, c'était pas, l'association n'était pas aussi grosse qu'elle l'est aujourd'hui. Puis, en fait, il y avait plusieurs associations de lutte.
Okay.
C'était plus comme du même calibre, comme du même niveau, dont Lutte internationale ou International Wrestling, qui était une association québécoise dans laquelle Dino travaillait. Et il va même devenir copropriétaire quand il va racheter les parts d'André le Géant. André le Géant, je ne sais pas si tu sais c'est qui.
Oui, je sais c'est qui.
Il mesurait...
Le Géant.
Il mesurait 7 pieds 4.
7 pieds 4?
Oui.
Tabernache.
Donc, au début des années 80, c'est l'association Lutte internationale, la compagnie qui roule la plus au Québec. C'est la compagnie Dino. Puis Dino, il est vraiment la star.
Okay.
La star. À l'époque, c'était 2 millions de personnes qui écoutaient la lutte le dimanche.
Mm.
Quand même.
Comme c'est le Star Academy d'aujourd'hui.
Oui, vraiment. Genre, c'est fou comment c'est moins populaire aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est pas, c'est ça, il est pas juste la star de International Wrestling, mais il est aussi, vu qu'il est copropriétaire, un de ses rôles, c'est d'écrire les histoires.
OK.
Parce qu'on sait que la lutte, c'est comme un show de théâtre avec des hommes en chess.
Mm-hmm.
Et puisque c'est lui qui écrivait l'histoire, ben, il se mettait de l'avant. C'était lui le héros. La star. Et ben, des fois, ça passait un peu moins bien auprès des autres lutteurs qui trouvaient qu'il s'en donnait un petit peu trop, là, comme les frères Rougeau, des fois. Il y a eu des petites tensions avec ça. Mais au final, Dino était quand même assez rassembleur puis s'arrangeait pour que tout le monde s'entende bien. Il savait créer un bon esprit d'équipe.
OK.
Et son personnage de lutte, c'est... Je vais te montrer une photo. Là, c'est Good Guy Québec.
Good
son,
Guy
son
Québec.
Son costume de lutteur, là, il était aux couleurs du Québec, genre bleu et blanc avec fleurs de lys. Vraiment le look Captain Québec.
OK.
Puis quand il parle dans les tournois en anglais, tu sais, c'est avec son gros accent franco, même que genre, les gens ont de la misère à le comprendre. Là. Donc, attends, je te montre une photo de Capitaine Québec. Là.
Oh my God! OK, c'est très Capitaine Québec. Il est en bobette bleue. La fleur de lys est énorme. Il y a une cape bleue et blanche avec la fleur de lys dessus. Il y a même des... Comment est-ce qu'on appelle cette
partie-là? Des genres de bracelets, comme bracelets de lutte, là, des...
un genre de truc que tu mets sur ton avant-bras.
Ouais.
Je sais pas comment ça s'appelle. Bleu avec une fleur de lys aussi. Il y a vraiment Captain Québec, je pense que c'est vraiment un bon,
ouais,
un bon nom.
Il aurait dû s'appeler de même. Autour de 1983, il rencontre sa femme, Diane Rivet, quand elle n'a que 19 ans. Elle était alors serveuse dans un bar et le propriétaire qui tripait sur Dino... Le propriétaire tripait vraiment sur Dino.
OK.
Donc, quand Dino venait dans le bar, son boss, il disait à Diane, « Regarde, regarde, c'est Dino! C'est Dino! » Puis elle était comme, « Who dat? »
Who dat?
Mais évidemment, Dino, en grand charmeur qu'il était, offre à Diane de la reconduire chez elle à la fin d'une soirée et elle accepte. Et c'est comme ça que leur histoire d'amour a commencé.
Petite séance de bisoutage dans l'auto.
Dans l'auto. Et là, arrive le moment le plus décevant de la carrière de Dino. C'est qu'il devait affronter Hulk Hogan à Montréal.
OK.
Mais le match est annulé à la dernière minute. Parce que la WWF a eu peur que les gens prennent plus pour Dino que pour Hulk Hogan. Parce que Dino, il était trop populaire à Montréal. Genre, il était plus populaire que Hulk Hogan à Montréal.
Fait que c'était genre Hulk Hogan puis son agent qui ont dit « Non, nous, on vient pas si on n'est pas les préférés. »
Genre, c'est la WWF qui a annulé. Là.
Oh non! Ouais. Ben, c'est sûr que c'est de leur côté, là.
Ouais. Oh oui. Ah, Dino, il était en tabarnak. T'sais, ça a été comme le moment de sa carrière.
Oh!
Ouais. Fait qu'après ça, il est vraiment fâché contre la WWF, fait qu'il la boude. Puis il veut vraiment leur faire compétition avec sa compagnie. Il veut amener sa compagnie à un niveau assez haut pour compétitionner avec la WWF. Mais malheureusement pour Dino, c'est une ambition irréaliste parce que peu importe ce qu'il fait, il peut pas compétitionner avec eux. Parce que à ce moment-là, là, la WWF était vraiment en train de grossir rapidement. Puis une chose qu'il faisait bien, en fait, c'est qu'il allait chercher les gros noms des autres marchés.
OK.
Fait que dont Montréal. Fait qu'éventuellement, tous les gros noms de Montréal se ramassent avec la WWF, comme Jacques Rougeau, Rick Martel, Mad Dog Vachon.
Ah oui! My God, des vieux noms!
Ouais. Et... vers 1985, la compagnie de Dino est comme sur respirateur artificiel. Dino, il sait plus quoi faire. Il se remet en question. Est-ce qu'il continue à se battre ou il signe avec l'ennemi? Vince McMahon, c'est le promoteur de la WWF. Là. En fait, je l'ai googlé et j'étais comme, ah oui, je sais c'est qui. C'est un mime.
C'est un mime?
Attends, je l'ai pas là. Je te le montre. Genre, tu veux le reconnaître? Il est comme full de mimes avec sa face. Vince McMahon.
Ah oui, j'ai déjà vu ça. Ah oui, j'ai déjà vu sa tronche. OK. Je l'ai déjà vu passer, c'est ça.
Ouais. Fait que c'est lui comme le cerveau derrière la WWF. C'est lui qui recrute, c'est lui qui a sa vision puis tout. Là.
OK.
Donc... éventuellement, McMahon, il fait une offre à Dino que Dino ne peut pas refuser parce que c'est beaucoup d'argent. Fait qu'il finit par craquer. Et il quitte le Québec et rejoint la WWF en septembre 1985.
Il quitte le Québec? Il va où?
Il va aux États-Unis pour travailler comme temps plein avec la WWF. Vers 1988, Vince McMahon décide de changer le personnage de Dino. Il veut qu'il soit un méchant. Là, c'était un good guy à Québec, mais là, tu sais, il veut que ce soit comme l'anti-américain avec son gros accent et son kit Québec. Là.
Oh mon Dieu!
Et il veut qu'il se teigne en blond. Mais sinon, il n'y a pas le choix.
Il veut vraiment que le monde l'haïsse.
Ouais.
Comme le Québécois canadien. Ew!
Mais sinon, il n'y a pas le choix. Il s'exécute. Tu sais, c'est plus la star, là. Fait que c'est Diane, sa femme, qui lui teint les cheveux. C'est pas coiffeuse, là. Puis elle raconte que le bleach était tellement fort que ça y a comme brûlé un peu la peau.
J'ai fait ça avec mon chum aussi, il y a 2 ans, ouais. Ah. Je savais pas qu'il fallait pas le mettre sur le scalp.
Mm-hmm. Ouais, ça...
Il y avait mal.
Bon, Dino a vécu la même chose.
Même chose.
Mais là, évidemment, il gagne beaucoup plus d'argent, mais il aime vraiment moins ça, jouer les méchants. Puis il aime vraiment pas ça. Être blond, ça y va vraiment pas bien. sa femme a dit, c'était comme une mop sur la tête. Mais bon, pas le choix. Dans la WWF, t'écoutes, tu fermes ta gueule. Puis en plus, il commençait à vieillir, là. Tu sais, fin trentaine, début quarantaine.
C'est vieux dans ce sport-là.
Ouais, vraiment.
Dans n'importe quel sport, en fait.
Et là, pendant qu'il fait beaucoup d'argent, il commence à avoir un niveau de vie qui coûte cher. Entre autres, il achète sa maison à Vimont, à Laval, autour de 850 000 $, ce qui est à l'époque gigantesque pour fin 80. T'sais, il fait aménager un sous-sol avec un gymnase, poids halter à genre 50 000 $. C'est gros train de vie. Et là, en 1992, son contrat avec la WWF se termine et n'est pas renouvelé. Fait que là, Gino, il se retrouve. Début quarantaine, après 22 ans de carrière, sans emploi, puis beaucoup de factures à payer. Puis il sait rien faire d'autre que lutter.
Puis il n'a pas mis d'argent de côté.
Il a pas, pense pas qu'il a mis de l'argent de côté. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'il fait?
Va voir Uncle Vic?
Ben c'est ça. Ben là, j'ai rendu là, Vic est mort parce qu'il est décédé en 1984.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Mais bon, sa famille est quand même... même si c'est les Rizzuto qui sont au pouvoir à ce moment-là, sa famille est quand même active là, avec dans la mafia. Parce que la passation s'est quand même faite de façon calme, pacifique, oui. Entre les Cotroni et les Rizzuto. Donc, ouais. les Cotroni sont encore impliqués.
C'est de Dubois à Cotroni que ça a brassé. Si t'avais écouté l'épisode attentivement, tu le saurais.
Ben ouais.
Donc, il s'en va voir...
Sa famille. Puis tu sais, il avait déjà fait des petites jobines pour sa famille par le passé, tu sais, pour ses cousins, entre autres. Il travaillait parfois comme collecteur.
OK.
Fait que tu sais, il les accompagnait quand ses cousins, ils allaient cogner chez quelqu'un puis demander de l'argent. Mm-hmm. Tu sais, quand tu vois quelqu'un avec la shape de Dino Bravo te demander de l'argent...
Le gars, il bench 500 livres.
Oui, oui.
Donne-moi là ton cash. OK.
OK. Oui, monsieur. Il faisait aussi des fois le chauffeur de Paul Cotroni, son cousin. Paul, d'ailleurs, qui s'est fait tirer alors qu'il était dans l'entrée devant sa maison de Repentigny en 98. Ça finit souvent mal dans ces familles-là. Hein?
Sa mafia.
Oui. Puis bon, il faut dire que Dino, il est vraiment, il est pas parfait, là. Tu sais, il y avait un petit casier judiciaire pour... j'ai lu violence, mais j'imagine que ça veut dire bagarre, là. Possession d'armes et vol d'automobile. Ah. Et en 86, il avait été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie.
OK.
Et il pouvait aussi avoir mauvais caractère. Il était reconnu pour se fâcher rapidement, genre un peu soupe au lait, là. Une anecdote qu'il démontre, Dino, c'est un grand fan de hockey, tout particulièrement les Canadiens de Montréal. Il haïssait donc les Nordiques de Québec.
OK, ça j'allais dire, les Nordiques étaient là, c'était pas ouais. Clair.
Fait qu'une fois dans un bar, alors qu'il était avec des amis lutteurs, dont Jacques Rougeau.
Pourtant, il avait les mêmes couleurs que les Nordiques.
En plus?
Je pense, j'aurais cru le contraire.
Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'à l'époque, nous, on ne l'a pas connu, mais genre la compétition c'est entre les Nordiques et les Canadiens était comme vraiment
intense. C'est mon rêve que ça revienne.
Ah oui.
Ça n'arrivera pas. Mais...
Non. Donc, Dino, il dit à Rougeau que le gars à côté, c'est un joueur des Nordiques dans le bar. Et là, Rougeau, qui est bien chaud, il commence à dire que les Nordiques, c'est de la marde. Puis, il s'en va donner un coup de poing au joueur de hockey qui se tasse juste à temps, puis Rougeau, il frappe le mur.
Hein?
Oui. Tu sais, genre des lutteurs chauds qui cherchent la merde, là. Fait que là, après ça, le joueur de hockey, il pogne Rougeau, qui aurait probablement reçu la volée de sa vie si Dino n'était pas intervenu. Puis là, le joueur de hockey, il se met à insulter Dino, puis à lui dire que c'est un faux nid, là, qui est fake, puis nanana. Fait que là, Dino se fâche. Il pogne, il traîne dehors, puis il balance la tête première dans la corvette rouge du joueur de hockey.
Oh
qui s'effondre par terre.
Ben, c'est sûr.
Ouais.
L'impact de violent. T'as du loup
qui te pogne puis qui te lance comme oh un... Comme un...
Rien.
Une
paire de bas dans...
Ouais, c'est ça. Pour
dans
lui, c'est
panier à linge. Mon analogie. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Fait que c'est ça. Tu sais, il pouvait quand même... Il avait son caractère, là. Il pouvait se fâcher, puis...
Rapidement.
Utiliser sa force, mettons.
Ça escalade rapidement.
Ouais. Puis Dino Brito, là, qui est comme son mentor, ami, avec qui il s'est toujours entraîné, il disait, tu sais, Dino, là, si tu lui mettais un gun sur la tempe, il te dirait, t'es mieux de tirer tout de suite parce que sinon, on va venir après toi.
Oh, bon.
Tu sais, il avait pas peur. Pis, OK. Ouais. Donc, Dino, pas parfait et en manque d'argent, va voir sa famille mafieuse et cette fois, il s'implique plus. Il s'implique dans la contrebande de cigarettes.
OK. La partie douce.
Ouais, la partie soft.
Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Donc, petit résumé de la contrebande de cigarettes pour, entre autres, nos amis français qui ne savent pas trop de quoi on parle peut-être, là. Mais c'est qu'au Canada, les cigarettes sont vraiment beaucoup, beaucoup taxées. Donc, c'est vraiment, vraiment cher. Genre, en 2022, entre 63 et 79% du prix des cigarettes, c'est des taxes.
Ah ouais?
Ouais. Puis bon, fait qu'en 90, je ne sais pas exactement, mais t'sais, c'était quand même très, très, très élevé.
OK, je savais pas ça. Mm. Crime, les gens de l'extérieur qui arrivent ici, qui fument, ils doivent capoter.
Ah oui, capote, là. Ouais. C'est tellement cher comparé à l'Europe, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cigarettes ne sont pas taxées dans les communautés autochtones, les réserves qu'on appelle, puisque les Autochtones ont droit à une exemption de taxes sur la plupart des choses. C'est une maigre compensation du gouvernement du Canada pour le fait de les avoir dépossédés de leurs terres et de leur culture.
On ne peut pas dire réserve, il faut dire territoire. Oui,
c'est ça. Ben, c'est pour ça que je dis les communautés, mais c'est ce qu'on appelle réserve. Là. Bon, je sais
parce
qu'on n'est pas...
On ne voit pas tes guillemets que tu fais.
Ouais.
Elle a fait des guillemets.
J'ai fait des guillemets pour réserve, juste pour clarifier territoire. C'est quoi, parce que c'est vraiment le mot qui... très, très connu, mais territoire, communauté autochtone. Donc, c'est pas taxé à ces endroits-là. Donc, la contrebande de cigarettes, ben c'est que tu te fais chummer-chummer avec les Autochtones, t'achètes les cigarettes pas taxées, t'es sort de la réserve, puis t'es vend moins cher sur le marché noir. Et en 2022, la contrebande de cigarettes est une industrie lucrative qui rapporte environ 2 milliards de dollars par an au Canada. Donc, c'est vraiment, vraiment lucratif comme business.
Bien, c'est sûr. C'est 80 % de taxes.
Et évidemment, c'est illégal de...
Ça va sans dire.
C'est ça, de vendre des cigarettes que tu as achetées dans une communauté autochtone. Et il y avait une partie des cigarettes aussi qui se retrouvaient aux États-Unis, les cigarettes de contrebande qui se rendaient jusqu'aux États-Unis, parce que c'est quand même taxé aux États-Unis. Je pense que c'est moins qu'au Canada, mais quand même, ça, c'est quand même moins cher, les cigarettes de contrebande, que... les cigarettes régulières. Et là, ce qui adonne bien pour Dino, c'est que les Autochtones impliqués dans la contrebande, ben ils trippent sur la lutte.
Oh non!
Ils trippent sur Dino. Fait que là, Dino, il s'entend avec eux, puis les contrebandiers autochtones, ils décident qu'ils veulent juste dealer avec Dino.
Okay.
Dino, c'est leur gars.
C'est leur dude.
Ouais, Dino, il occupe une place importante, puis il développe son réseau pour écouler les cigarettes de contrebande au Canada et aux États-Unis. officiellement, il était comme à la tête de deux entreprises se spécialisant dans la vente d'articles de sport. Les entreprises Dino Bravo Inc. et Titan. Mais d'après moi, c'était peut-être pour blanchir son argent.
Des fronts.
Ouais, des fronts. Selon Rick Martel, un lutteur à qui Dino s'était confié, le business de la contrebande de cigarettes était tellement payante à cette époque que les... Là, je sais pas comment le dire, là, mais dans le documentaire, ils disent les « cocaine guys ».
OK.
Genre, les importateurs dealers de cocaïne s'y intéressent à la contrebande de cigarettes tellement c'est payant.
OK.
Fait que les « cocaine guys », ils auraient approché Dino. Et puis il aurait dit nous on veut embarquer dans ta business de cigarettes, puis en échange nous on peut te laisser comme une t'impliquer un peu dans la cocaïne.
Ça me semble wrong.
Ouais.
Fais pas ça. Il dit oui, j'imagine.
Ouais. Okay. Il dit oui. Diane, la femme de Dino, tu sais, elle voit un peu ce qui se passe là, pas toute là. Puis elle est vraiment inquiète, puis tu sais c'est surtout de ces nouvelles fréquentations là, tu sais, elle dit soudainement il y avait plein d'amis, mais ouais. Tu sais, elle dit je sentais que la vibe était pas bonne, c'était pas des vrais amis là, c'était juste là pour la business,
des collègues.
Ouais, des collègues louches. Et quelques jours avant le meurtre, Dino est en charge d'une cargaison de cigarettes de contrebande d'une valeur de 400 000 $. Il laisse la cargaison dans un entrepôt en attendant que ses nouveaux amis, les Cocaine Guys, viennent la chercher. Mais ce que les contrebandiers savent pas, c'est que la police a mis l'entrepôt sous surveillance. Fait que les policiers y ont vu Dino avec des gens qui étaient connus de la police, puisqu'ils étaient déjà sous investigation. Alors, lorsque les Cocaine Guys se pointent la troisième journée pour aller chercher la cargaison, boum, ils se font arrêter par la police.
Uh-oh.
Fait que là, eux autres, ils blâment Dino de pas avoir été prudent avec la cargaison, de l'avoir laissé là, ou pire encore, d'avoir été de connivence avec la police.
Mm-hmm.
Dino, ils blâment eux, disant qu'il aurait dû venir chercher le premier jour au lieu d'attendre trois jours, car ça aurait été moins risqué. Mais évidemment, c'est une énorme erreur de la part de Dino. C'était quand même lui qui était en charge de la cargaison. Fait que ça fait paraître vraiment mal l'organisation. Et quelques jours après, je ne sais pas si c'était un petit peu avant ou après cette arrestation-là, mais il y a la GRC qui a saisi 477 kilos de cocaïne dans des cannes de tomates à Montréal.
OK.
T'es caché dans les cannes de tomates.
Quand même intelligent.
Quand même. Puis c'était des connaissances de Dino là, qui se sont fait arrêter aussi là-dedans. Fait qu'il y avait beaucoup de tensions dans les jours, semaines avant le meurtre par rapport à ça. La journée du meurtre, Dino appelle le lutteur Jacques Rougeau, a.k.a. The Manti.
Ah ouais.
Jacques Rougeau, il était comme habillé en Manti.
Hein?
Comme drôle. Puis, fait qu'il appelle Jacques Rougeau, puis il dit qu'il doit lui parler. Puis là, Jacques, il trouve ça quand même bizarre parce que, tu sais, il dit Dino, puis moi, on s'est toujours bien entendu, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on n'est pas des grands amis, là, tu sais. Fait qu'il dit, ben, je peux pas venir chez toi aujourd'hui, mais demain, je passe te voir. Puis Dino lui dit, viens me voir dès que tu peux. Là. Et c'est la dernière fois qu'il va parler à Dino. Fait qu'il aura jamais su qu'est-ce que Dino voulait lui dire. Parce que le lendemain, en allant voir Dino, il arrête à une station d'essence. Puis là, l'employé, il dit, il le connaît. Puis là, il dit, hey, ton ami, il en a mangé toute une. Puis là, genre, il est comme, hein, quoi. Puis là, finalement, il voit dans la première page du journal que Dino a été tué dans la nuit.
Puis lui, il s'en allait le voir?
Il s'en allait le voir.
Oh my God.
Mm. Fait que c'était, on sait que peu de temps avant le meurtre, Dino, il s'était confié à un bon ami qu'il craignait pour sa vie.
À cause de la cargaison? On sait pas.
Ouais, on sait pas exactement. En fait, je vais te le dire, le meurtre, il était résolu.
Ah!
Ouais, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Fait que c'est beaucoup de théories, tu sais.
OK.
Fait que, tu sais... Ce qu'on sait, c'est que le soir du meurtre, quand Diane et Claudia ils ont quitté la maison vers 21h, puis sont revenus à 00h30. Puis quand ils sont partis, Dino, ils étaient seuls. Évidemment, Claude Poirier s'est rendu sur la scène du crime, puis il parle dans le documentaire Dark Side of the Ring. Et il n'y a aucune trace d'effraction, mais selon les proches, la porte était comme jamais barrée.
OK.
Donc, bon. Puis, tu sais, il était assis dans son fauteuil, télécommande à la main.
Ouais.
Il y avait un pistolet et une mitraillette qui sont trouvés par terre sur la scène de crime. Mais selon les policiers, j'ai lu comme certains endroits qui ça disait ça pourrait être une fausse piste pour faire accroire à deux tireurs d'avoir laissé comme deux guns. Mais bon, pourquoi?
Il était sans empreinte, j'imagine.
Ouais, j'imagine qu'il avait mis des gants, des professionnels. Puis il y a 17 douilles qui sont retrouvées sur la scène.
Puis il y en avait 7 dans la tête puis 4 dans le corps, t'as dit.
Ouais.
OK. T'sais,
il voulait qu'il meure. Tuer, ouais. Et 3 jours après le meurtre, quand les policiers fouillent la maison, ils trouvent des cigarettes de contrebande d'une valeur de 55 000 $ dans la maison de Dino, qui était comme cachée dans un garde-robe, genre. Tu sais, est-ce qu'il aurait pu voler une partie?
Ouais, il se faisait comme son stage personnel qu'il revendait lui-même.
Est-ce qu'il se serait fait passer pour 55 000 $? Comme dit Claude Poirier, il y en a qui se sont fait passer pour moins que ça. Donc, malheureusement, on n'a pas la réponse. Mais c'est sûr que c'est lié à ses activités criminelles, comme 100%. T'sais, est-ce que ce serait les Autochtones qui faisaient la contrebande de cigarettes qui se sont fâchés? Mais selon les spécialistes, c'est pas dans les habitudes des Autochtones de tuer comme ça, surtout à l'extérieur des réserves. Mais une hypothèse, il aurait pu mandater les moteurs pour faire la job. En même temps, ils trippaient sur Dino, tu sais.
Ouais. Mais il y a beaucoup d'options, là.
Ouais. Ou sinon, c'est la mafia. Il a été éliminé parce que il l'avait échappé. Il avait mis l'organisation dans l'embarras. Ce qui est quand même...
C'est sa famille.
Plausible. Ouais. Mais en même temps, rendu là, tu sais, les risottos, c'est plus sa famille, là. Ou tu sais, est-ce que c'est la gang de cocaïne qui pensait que Dino les avait trahis? Oui, puis côté mafia, là, ça brasse vraiment beaucoup dans le quartier Vimont de Laval année-là.
OK.
Parce que Dino Bravo est le troisième résident du quartier à tomber sous les balles en 9 mois.
Hein?
Le 26 juin 1992, 9 mois plus tôt, Robert Caverzan s'est fait tirer à la sortie d'un restaurant de Vimont. Caverzan était un comptable qui travaillait pour la famille Rizzuto, plus précisément sur Rémi Brissette, qui était un homme à la tête d'un réseau d'escrocs qui avait réussi à soutirer 15 millions de dollars à des institutions bancaires et à des concessionnaires automobiles.
Hein?
Et 4 mois plus tard, le 14 octobre 1992, Ghislain Ranzo s'est fait tirer à Vimont, où il habitait. Ghislain était impliqué dans la contrebande de cigarettes. Et pour le meurtre de Ghislain, il y a un dénommé Florian Robidoux qui avait été arrêté et détenu, mais finalement relâché par manque de preuves.
3 meurtres irrésolus dans le même quartier en 9 mois.
Puis tous les 3 hommes, Dino, Ghislain et Robert, se connaissaient et travaillaient pour la mafia italienne.
Ben là.
Il y avait des petits règlements de compte.
My God.
Puis là, moi, j'en viens au fait qu'il était comme évaché dans son fauteuil, télécommande à la main. Fait que pour moi, il y a 2 possibilités.
Vas-y.
Soit la porte était débarrée, fait qu'il n'a pas entendu les tireurs, ils l'ont tiré comme avant qu'il puisse bouger.
Mm-hmm.
2, il connaissait les tireurs, puis ils ont laissé entrer, puis il était vraiment à l'aise, puis genre, il écoutait la game de hockey bien relax avec eux, puis à un moment donné, ils l'ont tiré. Et qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça, que genre, ils connaissaient.
Ce qui serait très plausible, c'est un petit monde quand même.
Okay. Fait que le meurtre est toujours résolu aujourd'hui, 32 ans plus tard. Puis, moi, j'ai l'impression que si c'est pour se résoudre, c'est que quelqu'un va parler, là. Parce que je pense pas que la police a beaucoup de preuves physiques, là, dans ce que j'ai lu, là.
Ou même s'il y en avait, je veux dire, la mafia. T'appelles quelqu'un à la police, tu dis « supprime-moi ça, fais-moi disparaître ces preuves-là », ils vont faire « OK ».
OK.
Ça se termine là.
Ouais, c'est ça. Fait que, écoutez, si vous avez un oncle moteur ou mafieux qui s'échappe
attire
dans...
Attire pas ces informations-là sur nous, là.
Dans un party de famille. Non, pas sur nous.
On se mêle pas à ça.
Mais, hein, si vous entendez quelque chose dans un party de famille, là, appelez la police.
Ouais, pas nous.
Police de Laval au 450-662. 4-6-3-6. C'est leur ligne pour la contrebande de cigarettes.
Oui. Une ligne pour ça?
Oui, c'est good. Et pour finir sur une note un peu plus touchante, mais dans le documentaire Dark Side of the Ring, il y a un épisode sur Dino, là. J'ai pas écouté le reste de la série, là. Je pense que chaque épisode, c'est un lutteur. Mais dans cet épisode-là, la fille de Dino, elle témoigne. Là, puis aujourd'hui, elle ben,
un 38.
Peu plus... Ouais, c'est ça. Plus vieille, un petit peu plus vieille que nous. Puis c'est comme vraiment touchant. Là. Elle dit que son père, c'était le bout en train de la famille, le rassembleur. Puis il raconte qu'au funérail, du haut de ses 6 ans, elle avait fait un dessin de sa famille, de elle, sa mère, son père. Puis qu'elle s'est levée, puis qu'elle est allée porter le dessin dans le cercueil de son père.
Oh mon Dieu.
Puis il a dit que les gens étaient tellement émus que, genre, quand ils l'ont vu faire ça, tout le monde s'est levé debout.
J'ai des frissons.
Ah, c'est tellement triste, mais c'est beau en même temps. Puis elle dit que quand elle est arrivée au cercueil, genre, elle l'a pas reconnu sur le coup. Puis finalement, elle l'a reconnu quand elle a vu ses mains. Parce qu'il y avait des grosses mains.
Oh.
Puis, c'est ça. Et il y a Diane, elle, tu sais, elle s'est retrouvée veuve à 28 ans. Et malgré tout, elle a trouvé la force de continuer pour s'occuper de sa petite fille. Puis sa façon de gérer le deuil, ça l'a entouré d'été de se débarrasser de tous les effets personnels de Dino. Donc, toutes ses costumes, tu sais, elle les a toutes données à des amis de la famille. Fait que...
OK.
Ouais, c'était comme sa façon, comme, faut que ça sorte d'ici. Elle était comme pas capable de le voir. Puis sa fille a dit, ce que mon père a laissé en héritage, c'est la passion. C'est d'être passionné. Ses fans continuent à parler de lui avec tellement de passion. Elle dit, mon père, c'était un volcan, une explosion. Puis, ouais, son témoignage m'a vraiment beaucoup, beaucoup
mais je vois ça.
Touché. J'ai écouté le documentaire 2 fois, puis genre à chaque fois qu'elle parlait, je broyais. Mais c'est peut-être parce que j'ai perdu mon père pas longtemps. Fait que, je pense que ça touche une corde sensible. Fait que voilà, la triste histoire de Dino Bravo. En fait, l'histoire de Dino Bravo et sa triste fin.
Ouais.
Parce que le reste de sa carrière était quand même joyeuse et impressionnante. Et Dino, qui a représenté le Québec dans le monde, dans le monde de la lutte, avec passion. Alors, je trouve ça cool qu'on se souvienne de lui. Captain Québec. Et voilà, alors, en cette journée de la Saint-Patrick, allez donc boire une bonne Guinness. En honneur de mon père, qui était irlandais.
Oh.
Et prenez votre téléphone pour dire à votre père que vous l'aimez. Voilà.
Mais là, tu vas faire pleurer. Petit cœur.
Voilà.
Oh, on t'aime, Hélène. C'est une très belle, fin.
Oui, merci.
Pour une fin horrible. Mais...
C'est sûr que moi, dans ce soir-là, c'est comme la partie qui est comme venue me rechercher, ben, vraiment. Là, c'est sûr.
Tu viens juste de perdre ton papa.
Ben, oui.
Bon.
Alors voilà, merci, merci d'avoir été à l'écoute. Et
petit cœur.
J'ai besoin de ma Guinness.
On va aller chercher des Kleenex puis une Guinness.
Ouais. Et oubliez pas d'aller écouter l'épisode bonus sur Patreon qui sort le 23. Ouais. En fait, il va sortir le dimanche parce que c'est l'anniversaire, le triste anniversaire de l'événement.
Oh, OK.
Ouais, je vais sortir le 23.
OK.
Le dimanche.
Avec dimanche.
Ouais.
Ça va passer une belle semaine.
Oui.
Puis, fêtez sagement.
Voilà. Bye!
Bye! Oh, petit cœur d'amour! T'as faim! J'ai des frissons!
Crime de Bin est une idée originale de Mélanie Bouchard et Hélène Thompson. Mixage sonore et musique originale d'Anthony Castonguay-Hervé. Encouragez-nous, suivez nos aventures sur Instagram et sur Facebook. Et pour un épisode bonus par mois, abonnez-vous à notre Patreon. Merci Binkou!
Bye!
Americans love using their credit cards, the most secure and hassle-free way to pay. But D.C. politicians want to change that with the Durbin-Marshall Credit Card Bill. This bill lets corporate megastores pick how your credit card is processed, allowing them to use untested payment networks that jeopardize your data security and rewards. Corporate megastores will make more money, and you pay the price. Tell Congress to guard your card, because Americans lose when politicians choose. Learn more at guardyourcard.com.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, There's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.